Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Certains pensent que Dieu intervient directement pour la naissance de chaque être vivant. Si c'est le cas, alors tous ceux qui blâment Dieu pour ce qui leur arrive n'auraient peut-être pas tout à fait tort dans les reproches qu'ils lui adressent dès qu'un problème important se présente dans leur vie. Voyons donc ce que la Bible nous révèle sur ce sujet. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait la terre et tout ce qui est sur la terre. Il est question ici des êtres humains, des animaux et des végétaux. Les mers et tout ce qu'elles renferment. Ce sont tous les animaux marins, les poissons, crustacés, coquillages, etc. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Ici, le mot âme est traduit de l'hébreu nefesh, et il se rapporte à toute créature vivante, à tout ce qui a souffle de vie, qu'il s'agisse des animaux ou des hommes. Il tient dans sa main le souffle de toute chair d'homme. En s'adressant aux Athéniens, au sujet du Dieu qui a fait le monde, Paul dit « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Chaque fois qu'un être vient au monde, que ce soit un homme ou un animal, pensez-vous que Dieu s'en occupe d'une manière particulière, directe et très personnelle? Revenons à la Genèse. Comme je vous l'ai déjà expliqué, suite à la révolte de Satan et de ses anges, la terre devint informe et vide. Dieu dut renouveler sa surface et y réinstaller des êtres vivants. C'est ce qu'il fit en 6 jours de 24 heures. Lisons cela dans la Bible. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux et que les oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Que constatons-nous à la lecture de ce passage? Les eaux produisirent en abondance les poissons. Ensuite, la terre produisit en abondance les animaux terrestres. Comment est-ce possible? Dieu moula-t-il, façonna-t-il chaque poisson, chaque animal terrestre? Non, l'Écriture déclare « Dieu dit ». Dieu prononça des paroles précises et cela fut ainsi. Autrement dit, Dieu donna un ordre et dès qu'il fut prononcé, les choses s'accomplirent. À la suite de cet ordre, il y eut des poissons dans la mer et le jour suivant, Dieu donna un autre ordre à la suite duquel il y eut du bétail sur la terre. Dans sa version des textes bibliques, André Chouraki traduit le verset 24 comme suit. Elohim dit « La terre fera sortir l'être vivant. » Dieu créa en émettant des ordres, et de la terre sortirent les animaux vivants, tout comme ce fut sur un ordre de Dieu que les eaux produisirent des poissons en abondance. Par contre, la création de l'homme ne se déroula pas ainsi. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Vous remarquerez qu'ici, Dieu ne donne plus d'ordre. Il décide de façonner l'homme, de le mouler lui-même. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le mot « forma » est traduit de l'hébreu « yatzar », signifiant « façonner, mouler » comme un potier moule façonne un vase. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il devint une âme vivante, il devint un être vivant. L'homme n'a donc pas une âme, mais il est une âme. Ensuite, Dieu forma une femme en partant d'une côte d'Adam. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Dans ce verset, le mot « forma » est traduit de l'hébreu « bana », qui a le sens de construire, de bâtir, après en avoir fait les plans. L'homme a été tiré directement de la poussière de la terre, tandis que la femme a été créée à partir d'un morceau de chair qui provenait directement de la poussière de la terre. Voilà pourquoi toute leur descendance est poussière. Elle provient de la poussière de la terre, et elle retourne à la poussière. Bien que la Bible n'en dise rien, l'Éternel a dû souffler également en Ève le souffle de vie. Mais ce ne fut pas le cas pour leur descendance. Dieu n'avait plus à intervenir directement, car il avait créé le processus de reproduction qui allait se perpétuer de génération en génération. En donnant à Adam le souffle de vie, Dieu lui accorda l'esprit de l'homme, cette intelligence, ce discernement, cette compréhension, la possibilité de prévoir, de faire des projets à long terme que les animaux ne possèdent pas. Dieu créa les animaux par l'intermédiaire de sa puissance, il donna des ordres, et immédiatement l'esprit qui émane de lui agit en exécutant ses ordres. Et pour l'homme, ce fut différent. L'Éternel le façonna, il le modela exactement comme fait le maître potier avec son vase d'argile. Aux poissons et aux oiseaux, Dieu avait dit « Soyez féconds, multipliez ». Je voudrais attirer votre attention sur cette petite phrase et vous poser quelques questions toutes simples. Croyez-vous que si une sardine rencontre une autre sardine, Dieu va s'en occuper directement et personnellement? Qu'il va s'occuper des œufs pondus par la femelle afin qu'ils puissent tous bénéficier de la laitance du mâle? Pensez-vous qu'ensuite, il surveillera chacun des œufs jusqu'au moment où les petites sardines naîtront et qu'il agit de la sorte pour tous les poissons de toutes les mers et de toutes les rivières du monde? Croyez-vous que si un fringant taureau rencontre une compagne sur son pâturage, Dieu va surveiller leur accouplement, s'assurer qu'il y aura bien conception d'un petit dont il prendra soin jusqu'à sa naissance? Et pourtant, n'avons-nous pas lu dans le livre de Néhémie qu'il donne la vie à tous? Lorsqu'il est écrit « Tu donnes la vie à toutes ces choses », cela comprend tous les végétaux, y compris l'homme et tous les animaux. Remarquons ce que Dieu dit à l'homme et à la femme peu après les avoir créés et les avoir bénis. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre » et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Si Dieu leur demande d'être féconds, s'il leur confie pour mission de remplir la terre, pourquoi alors s'occuperait-il de la naissance de chaque individu? Il faut reconnaître que la naissance d'un bébé dans une famille où règne une bonne entente est une véritable bénédiction. Mais est-ce le cas pour les naissances qui émanent d'un adultère? Dieu peut-il bénir cette sorte d'union passagère qui est une transgression du septième commandement? Si Dieu intervenait pour la naissance de chaque être humain, que de récriminations, que d'accusations, que de reproches seraient portés contre lui avec juste raison? Combien de fois n'ai-je pas entendu des personnes dire « Je n'ai pas demandé à venir au monde », refusant ensuite la responsabilité de leurs actes ou celle de leurs parents. La Bible démontre que les enfants peuvent subir le résultat de fautes physiques, et j'ai bien dit « physiques », commises par leurs parents ou grands-parents, et aujourd'hui, cela est reconnu par la médecine. Pouvez-vous imaginer les rouspétances, la grogne, les protestations qui seraient adressées à Dieu s'il intervenait d'une manière directe dans la naissance des êtres humains? On entendrait des remarques comme celle-ci. « Pourquoi m'avoir donné la vie alors que ma famille est pauvre et ne peut me donner tout ce dont j'ai besoin ? Pourquoi me faire naître dans ce bidonville, sachant que sous peu je devrais rechercher ma nourriture au milieu d'immenses tas d'immondices ? Pourquoi m'avoir donné la vie par des parents atteints de diverses maladies transmissibles ? Qu'ils en soient responsables ou non, ce n'est pas mon affaire. De toute façon, je suis obligé d'en supporter les conséquences. Pourquoi m'avoir fait naître dans ce pays où la sécheresse règne et où les gens meurent de faim ? Tu sais que d'ici quelques mois, je serai mort après de longues souffrances. Pourquoi m'avoir donné la vie alors que tu pouvais savoir que j'allais être aveugle, estropié, sourd, muet, bossu ou paralysé de naissance ? La liste est très longue, car lorsqu'il s'agit de faire des reproches, particulièrement à Dieu, l'imagination de l'homme ne tarit pas. On pourrait encore parler des enfants rejetés par leurs parents, ceux qui sont abandonnés dans une poubelle ou une décharge publique. Que dire de ceux qui sont battus, martyrisés ? Dieu est parfaitement capable de prévoir ce qui va se passer. Les diverses prophéties, ainsi que son grand plan de salut pour l'humanité, en sont la preuve. Un bel exemple est celui de Cyrus. L'Écriture parle de lui et l'appelle par son nom bien avant sa naissance. Mais l'Éternel savait qu'il serait obligé de relever les ruines de Jérusalem à une époque fixée et que, pour cela, il se servirait de Cyrus. D'autres prophéties qui doivent encore être accomplies font mention d'individus qui auront un rôle important à accomplir au temps de la fin. Par exemple, le livre de l'Apocalypse se réfère à la bête et aux faux prophètes, mais les prophéties relatives à ces individus ne modifient en rien le sujet de cette émission. Comme nous le verrons la semaine prochaine, les naissances dépendent de lois complexes mises en place par le Tout-Puissant, des lois qui engagent la responsabilité de l'homme et qui ne lui permettent pas d'adresser le moindre reproche à Dieu.